Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le réveil culturel. C'est ouvert tous les jours de la semaine, tôt le matin à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou par l'abonnement au podcast disponible entre autres sur franceculture.fr. Corinne Amar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation. Ce matin, la prise de son, Élise Le. Il y a 60 ans, le 25 novembre 1959 exactement, disparaissait Gérard Philippe, une des icônes du cinéma français de l'après-guerre. Il avait 36 ans, il était l'acteur de théâtre et de cinéma le plus populaire du pays. Gérard Philippe était tout à la fois Fanfan la Tulipe, Le Cid, Valmont, Le Prince de Hambourg, Julien Sorel, Caligula... Et surtout, un héros français mort jeune et en pleine gloire. Dans son dernier livre, Jérôme Garcin raconte le dernier été et les derniers jours de Gérard Philippe d'une manière intime et délicate à la fois. Comme le titre du livre, beau et sobre, Les derniers jours du Cid, récemment paru dans la collection Blanche de Gallimard.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Jérôme Garcin.
Bonjour Toufik.
C'est un concert du foie, foudroyant d'ailleurs, qui va mettre fin prématurément à la vie et à la carrière de Gérard Philippe. Fauché comme une alouette en plein ciel, écrivez-vous dans ce livre consacré à ses derniers jours. Pourquoi Gérard Philippe ?
Pourquoi Gérard Philippe ? Pour deux raisons essentielles. D'abord parce que c'est un peu l'aboutissement de ce que je fais depuis 25 ans, c'est-à-dire raconter des vies brèves, avec la conviction que plus elles sont brèves, plus elles sont pleines. Mon premier livre était sur Jean Prévost, un résistant qui est mort dans le Vercors à 40 ans. Et puis après, il y a eu mes proches, mon frère jumeau, renversé par une voiture à 6 ans, mon père, etc. Et puis, Gérard Philippe est un peu l'icône de ce destin bref. Et s'y ajoute, vous vous attendez à
cette réponse,
une raison personnelle, c'est que j'ai épousé en 1977... la fille de Gérard Philippe, Anne-Marie Philippe, et que j'ai attendu aussi le jour où elle m'a dit « Voilà, tu peux y aller » pour oser écrire ce livre, parce que c'est évident que j'avais des raisons morales de m'inquiéter davantage de ce livre que des autres.
Est-ce à dire, Jérôme Garcin, que vous avez vécu avec le fantôme de Gérard Philippe ?
Surtout, moi j'ai toujours écrit... Moi, je suis très inspiré par les lieux. Je crois que c'est les lieux qui parlent en premier. Et c'est vrai que d'avoir vécu longtemps à La Roulière, dans cette maison de Ramatuelle, où Gérard et Anne passaient leurs étés, où à nouveau, j'ai vu nos enfants, Anne-Marie et à moi, grandir dans cette maison. J'ai vu Anne, la veuve de Gérard, prendre par la main notre fils aîné, Gabriel, pour aller au fond du vallon. J'ai très longtemps été aux côtés d'Anne, rue de Tournon. C'est là que j'ai rencontré d'ailleurs Anne-Marie un jour. Mais j'ai passé beaucoup de temps dans cette maison qui n'avait pas changé, dans cet appartement de la rue de Tournon qui n'avait pas changé.
C'est-à-dire qu'il était très présent, Gérard Philippe.
Il était présent partout, c'était plus qu'un fantôme, c'était une incarnation. À Cergy, dans le parc de Cergy, qui était l'autre maison du couple et de la famille, j'ai vu Anne-Marie lire longtemps après Le Temps d'un soupir, le livre de sa mère. Donc tous ces lieux me parlent énormément. Évidemment, le cimetière de Ramatuelle où Gérard Philippe est enterré. Et donc, moi, je crois qu'on écrit... Évidemment que ce livre, si on est très strict et un peu littéral, est un roman, puisque je n'étais pas dans cette clinique Violet où il a été hospitalisé avant de mourir. Et d'ailleurs, la clinique a disparu. Mais en revanche, rue de Tournon, à Cergy, à Ramatuelle, la présence de Gérard Philippe est absolument incroyable, sans compter, évidemment, ces lieux qui marque l'histoire du théâtre, que sont de Chaillot d'une part, et puis surtout le Festival d'Avignon et la Cour d'honneur.
Le dernier hiver du site, c'est aussi un choix. Vous avez décidé de raconter Gérard Philippe, mais à partir de ses derniers jours. Pourquoi Jérôme Garcin ? Est-ce que parce qu'une fois qu'il se sait malade, une fois qu'il rentre à l'hôpital, c'est la dimension humaine qui l'emporte sur le symbole qu'il incarnait à l'époque ?
Moi, je crois toujours que ce sont les derniers instants qui sont peut-être les plus éloquents pour raconter la vie de quelqu'un. Dans le cas de Gérard Philipe, le choix de ces derniers jours, de cette dernière semaine, tient aussi au fait, et vous l'avez rappelé en préambule, tient au fait que cette jeunesse de Gérard Philipe était incroyable. 36 ans, c'est l'âge aujourd'hui de notre fils aîné, de Gabriel. Et quand je vois ce qu'avait fait Gérard, c'est-à-dire ce qu'il avait fait au cinéma, vous l'avez rappelé également, au théâtre, même s'il n'y a pas de traces ou quasiment pas de traces, ce qu'il avait fait avec des enregistrements qui sont devenus légendaires, qui ont passé les générations de Pierre et Loup ou du Petit Prince, on est incroyablement frappé par cette précocité, cette jeunesse qui d'ailleurs explique, à mon avis, la prolongation du mythe. 36 ans, c'est rien. C'est rien. Et pourquoi ces derniers jours? Parce qu'il s'est passé quelque chose qui est de l'ordre presque de la tragédie grecque. C'est-à-dire que il a été, quand vous disiez, Toufik, qu'il se savait malade, oui, il savait qu'il avait des problèmes de santé.
Mais jusqu'au bout, il va croire à, effectivement, une guérison.
En tout cas, après que le médecin a ouvert et refermé, en novembre 59, la vérité que seul savait Anne, Philippe, et ce médecin qui, par hasard d'ailleurs, mais est-ce que c'est un hasard, j'y crois pas, était mon oncle, mon grand-oncle, ils ont fait le choix de ne pas dire à Gérard la vérité, c'est-à-dire le nombre très limité de jours qui lui était compté. Et donc, ce qui lui a permis aussi, pendant quelques jours, de rêver une autre vie après ce qu'il pensait être une convalescence ou un rétablissement, c'est-à-dire rêver des rôles, rêver des pièces, rêver des films. Et le 25 novembre, il est mort presque dans son sommeil, retournant.
Jérôme Garcin, c'est un roman ou c'est une enquête? Je veux dire que tous ces personnages que vous convoquez à son chevet, est-ce que ce sont des gens qui étaient vraiment là, les derniers jours de Gérard Philipe, ou parce que c'est votre choix de romancier, de parler que des gens qui ont vraiment compté dans la carrière de Gérard Philipe, et selon vous, d'après vous?
Alors écoutez, c'est très clair. Effectivement, je vous le disais, la fiction s'installe là où je ne sais pas. Je n'étais pas dans cette clinique, encore une fois, j'étais pas davantage rue de Tournon dans les derniers instants. Maintenant, je m'approche le plus possible de la vérité. La plaque minéralogique du corbillard qui emmène le corps de Gérard à Ramatuelle, c'est vraiment le numéro. Les lettres de Péros, de son grand ami Georges Péros à Gérard Philipe, sont des lettres que j'ai fait publier il y a quelques années aux éditions Funitid. Ce sont vraiment les mots de Gérard, les mots de Georges Péros, les textes, ça c'est très important, les textes de Ripide et d'autres auteurs qu'il a annotés à la veille de disparaître.
On pense en lit de mort, on peut le dire. Hein.
Y compris pour certaines pièces, pour moi dans 20 ans. Tout ça est vrai. Son rêve, son aspiration à devenir Hamlet, dans ce qui aurait été sa deuxième vie, ou le Doran du menteur de Corneille, ou même ce qu'avait proposé Villars, c'est-à-dire de devenir enfin Don Juan de Molière, tout ça est vrai. Ce qui entoure Gérard dans ces derniers instants, le couple formé par René Clair et sa femme Bronia, je les ai tellement bien connus que je sais qu'ils étaient là. Pierre Velay, qui a mis au monde l'accoucheur d'Anne-Marie et d'Olivier, des enfants de Gérard et Anne, mais aussi celui de nos enfants, Anne-Marie et à moi. J'ai passé un temps fou à parler des derniers instants de Gérard avec lui. Donc c'est un roman, mais qui est tellement proche de ce que je pense être la vérité, que ça se situe pour moi à la frontière du récit et du roman.
Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Gérard Philipe, Jérôme Garcin?
Il représente quelque chose qui a disparu totalement, c'est-à-dire comment être un acteur à l'époque, non pas, comme vous le disiez, nationalement connu, mais mondialement connu. La mort de Gérard Philipe le 25 novembre 59
a été
un événement mondial.
Dans les théâtres du monde entier, à Moscou, à New York, partout.
Mais les télés ont toutes fait les ouvertures de leurs journaux de l'époque avec cette disparition. Et comment, avec une telle gloire, une telle notoriété, disons, continuer à devenir un comédien humble? Il était sur les affiches, il était placé par ordre alphabétique avec le même cachet que ses partenaires de théâtre. Il passait le temps qu'il ne passait pas sur les plateaux de tournage ou sur les plateaux du TNP. Il les passait...
En tant que bon syndicaliste, à défendre la profession.
Ça, plus que ça, à créer le syndicat des acteurs. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, le statut des intermittents du spectacle existe. Son souci syndical n'était pas simplement un souci de s'occuper davantage, c'était de servir les autres. C'était le grand mot, le grand verbe du TNP et de l'époque, c'était servir.
Alors, c'est l'homme engagé ou c'est le comédien populaire qui...
C'est un tout. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui quelqu'un qui d'abord incarne à ce point le rôle, la beauté du statut de comédien, aussi bien sur scène, dans le subventionné absolu d'ailleurs, que dans le cinéma le plus populaire, qui était le cinéma de Carnet, de Claire ou d'Autant Lara à l'époque, et en même temps étant à ce point engagé non seulement, on l'a dit, pour le syndicat, mais dans le monde entier. Il était compagnon de route. Il n'était pas, comme on l'a écrit partout, communiste, mais il était compagnon de route. Il travaillait pour le mouvement de la paix. Ce modèle-là, pour moi, a totalement disparu, avec en plus une manière de préserver sa vie intime, même s'il n'y avait pas à l'époque de réseaux sociaux, qui est absolument admirable. Sa famille, ses enfants passaient avant tout. Il a toujours refusé qu'on s'introduise dans cette vie-là. Et ça, il y avait un respect pour cet homme qui a en plus, il faut le dire, sinon on ne comprend rien à la mythologie de Gérard Philippe, incarné un renouveau de la France dans les années d'après-guerre. Ce pays sortait abîmé, sali, coupable d'un nombre incroyable d'exactions, je ne parle pas le mot de collaboration. Il était humilié, il s'était mal conduit dans son ensemble, et tout d'un coup on avait un ange au sens propre, l'ange de Sodome et Gomorre, qui apparaissait dans toute sa jeunesse, qui avait été en plus, qui avait participé au combat de la libération de Paris, fusil à la main, et qui incarnait d'une certaine manière une jeune France que la vieille France de l'occupation avait envie de voir et avait envie d'aimer et d'admirer.
Et 7 ans après sa mort, en 1966, Jean Vilar, depuis la cour des papes d'Avignon, évoque Gérard Philippe dans ce document. Il évoque aussi bien l'acteur flamboyant que le citoyen militant.
Philippe est arrivé à la 5e année, il devait avoir 25, 26 ans à peu près. Il avait déjà une réputation d'acteur de théâtre, une très grande réputation d'acteur de théâtre. Il était évidemment parmi les jeunes d'alors considéré comme le plus doué. Et en plus, avait commencé d'une façon assez somptueuse, disons, sa carrière cinématographique. Je le cite toujours un exemple, c'est pas par complaisance à l'égard d'un disparu, mais c'est parce que quand je fais à un certain nombre d'années de distance, le relevé des rapports humains qu'il a pu y avoir dans cette cour, soit à travers le TNP, soit avant le TNP, soit après, puisque je ne suis plus directeur du TNP, il y a tout de même parmi d'autres, bien sûr, au stade administratif, au plan administratif, comme administrateur, comme artiste, comme technicien, Gérard a été un de ceux qui se sont le plus dévoués, non pas seulement à bien jouer, à bien mettre en scène, à bien éclairer, etc., etc., mais un de ceux qui, dès le premier jour, ont eu la mission populaire que l'État nous avait confiée, et qui était vraiment une mission. La première des choses que nous devions faire, de par notre cahier des charges au sein du TNP, c'était de faire venir dans notre salle, non pas l'élite, non pas les gens fortunés, mais d'abord ceux qui, peut-être, sont éloignés des questions artistiques, esthétiques, etc. Et surtout faire en sorte que l'art ne soit pas considéré par certaines classes défavorisées comme une chose qui ne leur appartient pas, mais au contraire, une chose qui leur appartient.
Gérard Philippe, comédien populaire.
Comédien populaire dans la mesure où, comme Vilar,
oui, comme un engagement.
Il a épousé l'engagement de Vilar, c'est-à-dire servir le public, faire venir le plus grand nombre.
C'est les belles années de TNP, il faut rappeler maintenant ce que c'est que le TNP.
Faire venir le plus grand nombre, voir ce qu'il y a de plus beau. TNP, Théâtre National Populaire, qui est beaucoup plus qu'un théâtre. C'est une idée follement démocratique, follement réussie. À l'époque, il arrivait à Gérard de jouer dans le même week-end, pendant des week-ends de Suresnes, où venait le public le plus populaire qui soit, de jouer dans le même week-end des rôles-titres, comme Lorenzaccio, Le Cid, ou Hombourg. C'était absolument inimaginable, même pour un comédien d'aujourd'hui, d'avoir un tel texte dans le même week-end. Le but était, encore une fois, de refuser l'idée que la culture, c'est un héritage qui se transmet chez les gens bien de génération en génération. Au contraire, ce métier n'avait de sens pour eux que s'il faisait découvrir la beauté, l'absolue beauté du théâtre à ceux qui n'y ont pas été initiés.
Il y a aussi des ambiguïtés dans la vie de Gérard Philippe, ou du moins ce qui nous apparaissent aujourd'hui comme des ambiguïtés. Comment ce héros aimé par la France, ce héros qui a participé à la libération de Paris, pouvait être aussi le fils très aimant d'un père qui était du mauvais côté de l'histoire, qui était un collabo, qui était obligé de quitter la France pour se réfugier dans l'Espagne du dictateur, pour échapper justement à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a commis pendant l'occupation.
Mais c'est pas une ambiguïté de Gérard Philippe, en tout cas.
En tout cas, il aimait son père, c'est ce qu'on apprend en lisant votre livre, Jérôme Garcin.
Ce qui est très beau, c'est qu'effectivement, il a été condamné à mort par contumace, le père, Albert Philippe, pour affairisme pendant l'occupation, entre autres. Et c'est vrai qu'il est, et donc il est parti s'exiler en Espagne. Et malgré tout, le héros, résistant et jeune homme de gauche qu'était Gérard Philippe, n'a jamais été infidèle à son père. Il continue à aller le voir à Barcelone, dans son appartement. Il ne lui a jamais craché dessus. Ça ne veut pas dire qu'il lui a pardonné son attitude. Mais en tout cas, il a même pensé à coucher son père sur son testament. C'est sûr que je pense que ça explique aussi, en partie, le parcours idéologique de Gérard Philippe. C'est aussi, s'il a été loyal à son père, en revanche, il s'est construit, je pense, politiquement, en opposition à ce père.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Les derniers jours de Gérard Philippe, le dernier hiver du Cid, pour reprendre le titre de votre ouvrage, Jérôme Garcin, édité chez Gallimard. Et bien sûr, cette musique n'a pas été choisie au hasard. On est dans l'intimité, là, d'un couple.
C'était leur musique, celle qui les soudait. C'est un couple magnifique. Pour avoir beaucoup connu Anne, l'avoir entendu me parler de lui, j'ai le sentiment, et avoir fait du temps d'un soupir, qui est le livre qu'a écrit Anne, ma petite bible personnelle, je ne cesse de penser à ce couple comme un couple presque idéal. Et il faut savoir que au-delà des sentiments, au-delà de l'amour fou, elle a eu un rôle sur sa carrière dramatique mais primordial. Elle l'a conseillé, elle l'a poussé à choisir plutôt l'exigence que la facilité. Je pense même que l'arrivée tonitruante de Gérard Philippe au TNP de Villars, c'est-à-dire ce TNP à la fois austère et flamboyant, doit beaucoup, et d'abord à Anne Philippe. Je pense que si il avait vécu, elle aurait eu un rôle encore plus grand dans les choix qu'il a fait de films et de pièces.
Columbia Film SA aura le plaisir de vous présenter pour la première fois ensemble Michel Morgan, plus émouvante que jamais, et Gérard Philippe qui a trouvé l'occasion de montrer une nouvelle face de son talent dans un film d'Yves Allégret, Les Orgueilleux.
Vous aussi, de rester tranquille. Non.
Alors, Georges, lave-toi les mains.
Il faut bien que ce soit pour vous, ma petite dame. Une belle grâce comme ça. On est pour 8 jours à la refaire.
Tourné dans un petit port du golfe du Mexique, ce film, riche en contrastes, retrace l'aventure de Nelly, une jeune veuve, et de Georges, une locumène, une pauvre épave imbibée d'alcool.
Le jeune premier transformé en locumène, Jérôme Garcin, vous qui avez écrit que Gérard Philippe avait révolutionné l'interprétation française de l'héroïsme, modernisé le jeu classique, rendu actuel des tragédies révolues, et surtout à la fois consacré et subverti la tradition de la poésie dramatique. C'était pas seulement le charmant jeune premier qui plaisait tant aux femmes, Gérard Philippe.
Ah, je pense que
il y avait cette dimension, mais dans ce film d'Allégret, c'est vraiment une locumène. Il voulait
une locumène parasée, ivre mort toute la journée, qui avec une scène incroyable où il danse pour obtenir une bouteille. Il danse ivre mort pour avoir son content d'alcool. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que même parasé, apparemment ivre mort, il gardait dans ses yeux une lumière et une beauté absolument incroyables. Vous savez, pour ce qui est du théâtre, c'est davantage ce qu'on m'a raconté que ce que l'on sait, puisque moi je fais partie de ceux qui sont nés, moi j'avais 3 ans quand il est mort, et donc je n'ai pas pu, aucun de nous d'ailleurs ne peut avoir accès aujourd'hui au théâtre de Gérard Philippe, puisque le principe que vous connaissez de Jean Villard, qui était d'ailleurs un très beau principe, même si moi aujourd'hui je le regrette, était que on ne capte pas, il y avait beaucoup de captations de théâtre dans les années 50, on ne capte pas une pièce, le spectacle vivant est fait pour des spectateurs vivants, et donc on ne le met pas dans une boîte, principe au nom duquel, à part quelques enregistrements audio très 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 mal écoutables, un peu grésillants, il n'y a aucune image. Il n'y a aucune image de ce qu'a été le Cid ou Lorenzaccio. Et donc, il ne reste que le cinéma. Et comme le cinéma, on ne le voit plus. Parce que les films, là, pour le coup, ma génération a pu voir les films de René Clair ou de Autant Lara ou de Marcel Carnet dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, ça ne passe plus. Quant à la télé, elle a cessé depuis longtemps de diffuser ces films en noir et blanc. Sans compter qu'il y a eu depuis des remakes aussi exécrable que le Fanfan la Tulipe version Vincent Pérez, qui est presque gênant quand on se souvient de l'original.
Vous voulez dire que ce livre, c'est un dernier adieu à Gérard Philippe disparaître du coup?
C'est une manière de... Vous savez, il va disparaître... c'est les 60 ans, vous l'avez rappelé, le 25 novembre de la disparition de Gérard Philippe. J'étais, comme tous les ans, au Festival d'Avignon cette année. Festival d'Avignon que Gérard Philippe incarne encore aujourd'hui. Il n'y a même pas un petit événement, une causerie, une soirée pour rappeler que c'était les 60 ans de sa disparition. Dans la cour d'honneur, il n'y avait rien. Donc vous savez, l'amnésie collective, elle va à une vitesse foudroyante. Je pense que évidemment, le cinéma n'est plus... Les 25-30 ans aujourd'hui ne savent plus qui est Gérard Philippe. Alors je ne dis pas que c'est... Je pense que la mythologie perdure pour d'autres raisons. Pas forcément les plus éloquentes, la jeunesse de sa mort, le personnage physique qu'il a, cet éternel beau jeune homme qu'il a incarné, mais l'œuvre théâtrale et cinématographique de Gérard Philippe, elle est inaccessible quasiment pour notre jeune génération.
Pourquoi? Parce que son jeu serait daté?
Ah, pas du tout, je crois pas. Je pense pour les raisons que je vous ai dites avant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder au théâtre, on ne peut quasiment plus accéder au cinéma, et il nous reste Pierre et le Loup et Le Petit Prince en CD tous les ans réédité, mais c'est très très rare. Et je pense en plus que le jeu très particulier de Gérard Philippe, effectivement, ne pourrait passer que si la qualité du son était ce qu'elle était quand on le vivait en direct.
Et pour terminer, qui sont, d'après vous, Jérôme Garcin, les dignes héritiers de Gérard Philippe? On peut parler d'Alain Delon, on peut parler de Jean Dujardin, plus proche de nous.
Ou... Non, parce que je n'en vois aucun qui soit de cette patte-là, c'est-à-dire à la fois théâtrale et cinématographique, ce qui n'est pas le cas des deux que vous avez cités, Dujardin et Delon, et encore moins étant à la fois au théâtre et au cinéma et engagé comme il l'a été. Je ne vois pas l'équivalent de cette personnalité absolument atypique qu'a été Gérard Philippe.
« Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Revisiter toute la vie, toute la carrière de Gérard Philipe à partir de l'intimité de ses derniers jours. C'est ce que nous propose dans son dernier livre Jérôme Garcin, Le dernier hiver du Cid. On se met même à rêver des films qu'il n'a pas tournés, des films qu'il aurait pu tourner. On imagine par exemple Gérard Philipe dans le rôle de Meursault, de cette adaptation de L'étranger, puisque c'était un projet de Jean Renoir. Et finalement, il se fera des années plus tard, réalisé par Visconti avec Marcello Mastroianni. Le dernier hiver du Cid, c'est édité chez Gallimard, je le rappelle. Merci Jérôme Garcin d'être passé ce matin.
Merci à vous, Tufik.